Matthewson Storyline of the Bible Lecture 2, Israel. Copyright 2020.
2024 Dave Matthewson et Ted Hildebrandt.
Dans cette conférence, Dave passera de l'appel et du choix d'Abraham à l'alliance mosaïque, puis à l'alliance davidique, en se concentrant sur l'histoire d'Israël, en particulier les récits du Pentateuque. Il retracera les thèmes de la terre, de l'alliance, du temple, du peuple de Dieu et de la royauté à travers ses récits. Et maintenant, Dave Matthewson. Dans la dernière conférence, nous avons examiné le cadre de l'histoire, ce que j'appelle le scénario de la Bible, le cadre de Genèse 1 à 3, qui introduit à la fois le cadre et la complication, où Dieu crée l'humanité et crée Adam et Ève. Être son peuple. Il conclut une relation d'alliance et leur donne la terre comme un cadeau gracieux, un lieu de bénédiction. En tant que porteurs de l'image de Dieu, ils doivent représenter la royauté de Dieu en tant que vice-régents de Dieu. Ils représentent le règne de Dieu souverain et suzerain sur toute la création. Ils doivent répandre le règne de Dieu et sa gloire dans toute la création, et Dieu habitera au milieu d'eux. Pourtant le péché entre en scène. Adam et Ève violent la relation d'alliance avec Dieu. Ils sont exilés du jardin, lieu de bénédiction, de sorte qu'à la fin du chapitre 3 de la Genèse, qui pourrait être considéré comme la rupture majeure dans le scénario, la question se pose encore de savoir si Dieu ne va pas simplement abandonner tout le projet, comment Dieu va-t-il restaurer son intention initiale de création? Et nous avançons assez rapidement et regardons l'événement majeur suivant dans l'histoire, le choix et l'appel d'Abraham par Dieu, où Dieu a choisi Abraham pour entrer dans une relation d'alliance avec lui afin que d'Abraham émerge une progéniture, une nation de personnes, que Dieu leur donnerait la terre comme lieu de bénédiction, Dieu entrerait dans une relation d'alliance avec eux. Il devait alors étendre le règne de Dieu sur toute la création et remplir le mandat de Dieu d'être fécondes et multipliées, remplissant la terre de la gloire de Dieu. Il devait remplir ce mandat afin que la nation d'Israël soit le moyen de Dieu d'accomplir cette intention et de continuer cette histoire. Nous avons vu alors qu'avec la sélection plus poussée de Moïse et de l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse, plus spécifiquement l'alliance mosaïque est le moyen par lequel la nation d'Israël accomplira l'intention de Dieu exprimée dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et l'intention de Dieu pour tous. Création pour l'humanité à partir de Genèse 1 et 2. Ainsi, le livre de l'Exode commence par le choix de Moïse par Dieu, mais commence également par Israël, en particulier au chapitre 1. Et encore une fois, ce que je veux faire, c'est simplement parcourir l'histoire d'Israël, en commençant assez rapidement dans la Genèse et en se concentrant principalement sur le récit du Pentateuque jusqu'à l'Exode, en passant par le Deutéronome, mais en introduisant parfois également quelques autres textes pour commencer à compléter l'histoire. Mais l'Exode commence par l'histoire d'Israël, et encore une fois, je veux simplement souligner comment les thèmes et les fils dominants de l'histoire, tels que l'Alliance, le peuple de Dieu, le temple de Dieu habitant en Éden, les images d'Éden, Dieu habitant avec son peuple, étant féconde, se multipliant, fonctionnant comme le vice-régent de Dieu pour représenter son règne et répandre son règne dans toute la création, comment ces thèmes commencent à émerger et à être repris et réalisés dans l'histoire qui s'ensuit, en commençant par Israël. Ainsi, Exode chapitre 1 et verset 12 commence ainsi. Je reviens au verset 11. Israël se trouve donc maintenant en Égypte, là où se termine le récit de la Genèse. L'Exode commence avec Israël en Égypte, et il est dit au verset 11, « C'est pourquoi ils ont établi sur eux des maîtres d'œuvre, les Israélites, pour les opprimer par des travaux forcés. » Ils construisirent des villes de ravitaillement, Pithon et Ramsès, pour Pharaon. Mais plus ils étaient nombreux, plus les Israélites étaient opprimés, plus ils se multipliaient et s'étendaient, de sorte que les Égyptiens en vinrent à craindre les Israélites. Notez que ce verset du verset 12, cette section du verset 12, cette référence à la multiplication et à l'expansion d'Israël reflète l'intention de Dieu pour Adam et Ève dans Genèse 1 et 2, qu'ils soient fécondes, se multiplient et remplissent la terre. Maintenant Israël, en tant que nouveau peuple élu de Dieu, comme moyen par lequel Dieu restaurera son intention de création qui ne s'est pas réalisée avec Adam et Ève, maintenant Israël, en tant que peuple de Dieu, remplit le rôle de fécondité et de multiplication. Ainsi, ils augmentent et se propagent à mesure que Dieu, telle était l'intention de Dieu dans Genèse 1 et 2, et comme ce fut l'intention de Dieu pour Abraham dans Genèse 12 et dans les sections ultérieures de l'histoire d'Abraham, où les ancêtres d'Abraham seraient plus nombreux, sa progéniture serait plus nombreuse que les étoiles du ciel. Mais leur situation en Égypte constitue une menace pour le dessein de Dieu pour eux, pour son peuple, qui remonte à Genèse 1 et 2, de sorte que Dieu doit les délivrer d'Égypte, et la délivrance par Dieu de son peuple d'Égypte devient le modèle de la manière dont Dieu va le faire. Agir ensuite pour sauver son peuple en l'amenant à accomplir son intention des chapitres 1 et 2 de Genèse. Cela nous amène maintenant au chapitre 3 d'Exode. Encore une fois, c'est là qu'intervient Moïse. Moïse sera celui qui conduira les Israélites hors de Égypte afin d'accomplir l'intention de Dieu de les amener dans le pays, le lieu de bénédiction, afin qu'ils puissent accomplir leur intention depuis la création. Ainsi, dans l'Exode, chapitre 3 et 6 à 8, c'est là que Dieu apparaît pour la première fois à Moïse. Et ce que je veux que vous remarquiez, c'est comment l'intention de Dieu de sauver Israël est liée aux promesses faites à Abraham, qui sont toutes liées à la terre, et encore une fois, qui sont en un sens à plusieurs niveaux dans le sens où elles vont jusqu'au bout. Retour à la création dans Genèse 1 et 2. De sorte que selon Exode chapitre 3, Dieu dit à Abraham, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ainsi, Dieu annonce clairement son intention à Moïse et à Israël de tenir sa promesse faite à Abraham, ce qui était encore une fois le moyen par lequel Dieu restaurerait son peuple à son intention originale, ce qui est le moyen que Dieu restaurerait son intention pour toute sa création et pour son peuple des chapitres 1 et 2 de Genèse. Encore une fois, Israël doit être sauvé d'Égypte, et la raison pour laquelle ils sont à nouveau sauvés d'Égypte est liée au fait que Dieu respecte l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, afin que Dieu les fasse sortir d'Égypte. Égypte afin de les installer dans le pays que, encore une fois, Dieu avait promis à Abraham, mais la promesse faite à Abraham d'amener Abraham dans ce pays était elle-même destinée à accomplir l'intention de Dieu de donner le pays comme lieu de bénédiction, comme un lieu de bénédiction. Dieu gracieux à son peuple dès les chapitres 1 et 2 de Genèse. Ainsi, remarquez, par exemple, tout au long du Pentateuque, comment le pays, en particulier dans les promesses, même les promesses faites à Abraham, mais les promesses faites à Moïse, comment la terre est décrite comme un endroit où coule, par exemple, du lait et du miel. Ainsi, le verset 8 d'Exode chapitre 3 dit, « En effet, je connais leurs souffrances, et je suis descendu pour les délivrer, les Israélites, du pays d'Égypte, et pour les faire monter de ce pays vers un pays bon et agréable. » Un vaste pays, c'est-à-dire un pays où coule le lait et le miel, vers le pays des Cananéens. Encore une fois, cette terre est clairement liée à la fécondité qui existait avec la création originale des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Maintenant, Dieu déclare son intention à travers Moïse et à travers Israël et les fait sortir d'Égypte pour les amener dans le pays pour restaurer son originalité. Intention de création. Par exemple, encore une fois, dans Deutéronome chapitre 28, pour aller au tout dernier livre du Pentateuque, Deutéronome chapitre 28, et en commençant par le verset 11. Et encore, je veux que vous remarquiez tous les liens avec Éden, la notion de fécondité, et cette idée de la floraison des plantes et de la fécondité de la création, la terre est un lieu de bénédiction. Tout cela vise à revenir en arrière et à rappeler Genèse 1 et 2 et la création originale comme lieu de bénédiction et cadeau gracieux de la terre au peuple avec toute sa fécondité. Ainsi, 28, à partir du verset 11, c'est la promesse de Dieu aux Israélites alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans le pays, l'Éternel vous fera abonder en prospérité dans le fruit de vos entrailles, dans le fruit de votre bétail, dans le fruit de votre terre, dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres, Abraham, de vous donner. Le Seigneur vous ouvrira son riche trésor, les cieux, pour donner le règne de votre pays en son temps et pour bénir toutes vos entreprises. Vous prêterez à de nombreuses nations, mais vous n'emprunterez pas. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Vous ne serez qu'en haut et non en bas si vous obéissez aux commandements du Seigneur votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui, en les observant diligemment. Et si vous ne vous écartez d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui, ni à droite, ni à gauche, en suivant d'autres dieux pour les servir. Alors, remarquez deux choses. Premièrement, le lien entre cette promesse faite à Israël de bénédiction dans le pays, le lien avec Abraham, que cela fait partie de l'intention de Dieu de restaurer et d'accomplir ce qu'il a promis à Abraham. Mais aussi les liens avec Genèse 1 et 2 dans la création, tout ce langage de fécondité et de bénédiction dans la terre est en fin de compte destiné à refléter l'intention originale de Dieu pour sa création à partir de Genèse 1 et 2, selon laquelle la terre est un lieu de fécondité et de bénédiction. Pour Adam et Ève et pour le peuple de Dieu, s'il obéissait. Et maintenant, la même condition existe ici. S'ils obéissent à la relation d'alliance de Dieu avec eux et aux stipulations de l'alliance et veillent à observer tout ce que Dieu leur commande, alors ils bénéficieront de la bénédiction dans le pays tout comme Adam et Ève. Mais cela nous amène au thème suivant. Une autre chose que je voudrais aborder, encore une fois, est la relation d'alliance de Dieu dont nous avons déjà parlé, l'alliance que Dieu conclut avec Israël, l'alliance mosaïque. Les livres de l'Exode jusqu'au Deutéronome donnent généralement les bases juridiques et culturelles de l'alliance de Dieu avec son peuple. Ainsi, Dieu dans l'Exode à travers le Deutéronome, Dieu élit Israël comme son peuple. Et encore une fois, tout comme Adam et Ève dans le jardin, qui entretenaient une relation d'alliance avec Dieu, leur capacité à rester dans le jardin et à jouir de sa fécondité et de ses bénédictions était conditionnée à l'obéissance. S'ils refusent d'obéir, c'est-à-dire de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu leur a interdit de manger, s'ils transgressent cela, alors ils seront expulsés du pays, le lieu de la bénédiction de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé. Il en va de même pour la relation d'alliance que Dieu conclut avec la nation d'Israël. Il les élit avec son peuple. Il les amène dans le pays en accomplissement de la promesse faite à Abraham, en accomplissement de Genèse 1 et 2. Et une partie de la stipulation de l'alliance est alors qu'ils jouiront de la fécondité et de la bénédiction de la création du pays comme provision gracieuse de Dieu s'ils gardaient les commandements de Dieu. Encore une fois, chapitre 28. Permettez-moi de lire une partie du chapitre 28 de Deutéronome, juste les premiers versets. Si seulement tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en observant diligemment tous ses commandements, en t'adressant encore une fois à Israël, comme je te l'ordonne aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront si vous obéissez au Seigneur votre Dieu. Béni seras-tu dans la ville et béni seras-tu dans les champs. Bénis seront les fruits de tes entrailles, les fruits de la terre et les fruits de ton bétail, les revenus de ton bétail et les produits de ton troupeau. Bénis seront votre panier et votre bol à pétrir. Vous serez bénis lorsque vous entrerez et vous serez bénis lorsque vous sortirez. Le Seigneur fera en sorte que les ennemis qui s'élèvent contre vous soient vaincus devant vous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. Le Seigneur ordonnera la bénédiction sur vous dans vos granges et dans tout ce que vous entreprenez. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il est donc clair que la bénédiction dont ils doivent jouir dans le pays, tout comme Adam et Ève dans la création originale dans le jardin d'Éden, était conditionnée, dans le cadre de l'Alliance, à leur obéissance. Le refus d'obéir entraînera la malédiction et entraînera l'exil du pays. Ainsi, par exemple, toujours dans le Deutéronome, ce thème de bénédiction et de malédiction faisant partie de l'Alliance apparaît tout au long du livre du Deutéronome. Mais Deutéronome chapitre 6 et versets 1 à 3. Or, voici le commandement, les statuts et l'ordonnance, selon que l'Éternel, votre Dieu, m'a chargé de vous apprendre à observer dans le pays que vous allez traverser et occuper, afin que vous, vos enfants et les enfants de vos enfants, craigniez l'Éternel votre Dieu tous les jours de votre vie et observez tous ses décrets et commandements que je vous commande dans le cadre de l'alliance que Dieu a établie avec Moïse, afin que vos jours soient longs. Écoute donc, ô Israël, et observe-les attentivement, afin que tout se passe bien pour toi et que tu multiplies grandement dans le pays. Remarquez le langage de la multiplication et de l'augmentation. Afin que vous puissiez vous multiplier grandement dans un pays où coule le lait et le miel, comme vous l'a promis l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Encore une fois, ce motif de lien avec les ancêtres, avec Abraham, mais le langage de la multiplication qui remonte au récit de la création suggère encore une fois qu'Israël est sur le point d'entrer dans le pays et que la promesse de Dieu selon laquelle ils bénéficieront de la bénédiction et de la multiplication dans la terre fait partie de l'intention originelle de Dieu pour son peuple qui remonte à la création. Revenons à nouveau au chapitre 28 de Genèse. La première partie du chapitre 28 que nous venons de lire promet la bénédiction dans le pays s'ils obéissent. Mais remarquez le chapitre 28 et les versets 62 à 64 du chapitre 28 de Deutéronome. Encore une fois, remarquez les liens avec l'alliance avec Abraham et même avec la création. Verset 62, « Même si autrefois vous étiez aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous resterez en petit nombre, parce que vous n'avez pas obéi à l'Éternel, votre Dieu. Et tout comme le Seigneur a pris plaisir à vous rendre prospères et nombreux, toujours en accomplissement de l'alliance avec Abraham et aussi du mandat donné à Abé et Ève d'être fécondes et multipliées, en ce sens que Dieu a pris plaisir à vous rendre prospères et nombreux, ainsi le Seigneur prendra plaisir à vous rendre prospères et nombreux. Prenez plaisir à vous conduire à la ruine et à la destruction. Vous serez arrachés du pays dont vous allez prendre possession. L'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout à l'autre de la terre, et là vous servirez d'autres dieux de bois et de pierre, que ni vous ni vos ancêtres n'avez connus. Ainsi, la promesse qu'il accompagne de bénédiction dans le pays s'il obéisse est aussi la malédiction qu'il accompagne et la promesse de malédiction et d'exil du pays s'il désobéisse. Encore une fois, l'alliance mosaïque, la promesse de Dieu à Israël et à travers l'alliance établie avec Moïse et la nation d'Israël est le moyen par lequel Israël accomplira l'intention de Dieu pour l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, mais finalement son intention de création établie en Genèse chapitre 1 et 2. Et encore une fois, il existe d'autres textes que nous pourrions consulter. Comme je l'ai dit, le Deutéronome est rempli du langage de la bénédiction et de la malédiction, qui remonte encore une fois et reflète le récit de la création sur la bénédiction et la malédiction. Encore une fois, la promesse de l'exil du pays s'il refuse d'obéir, le retrait de la présence de Dieu et du lieu de bénédiction et de fécondité, tout cela reflète à la fois l'alliance abrahamique, qui remonte également à l'intention originelle de Dieu pour toute sa création et pour son peuple. Maintenant, le prochain thème dont je veux parler, encore une fois, nous avons parlé du peuple de Dieu, nous avons parlé de l'Alliance, nous avons parlé de la terre et de la façon dont ceux-ci sont liés à la Genèse et à la création en tant qu'intention de Dieu d'accomplir son mandat original pour la création et pour son peuple de la Genèse. Le thème suivant est le tabernacle et le temple. Encore une fois, je vais en quelque sorte les traiter ensemble. Si je comprends bien, le tabernacle est fondamentalement une version portable d'un temple. Le temple était une version plus permanente du tabernacle. Ainsi, le tabernacle convenait aux Israélites qui erraient dans le désert et en route vers le pays. Une fois qu'ils furent là, installés et établis, une structure plus permanente fut construite sous la forme d'un temple. Mais d'une manière générale, je pense qu'ils avaient tous deux un objectif similaire, c'est le tabernacle qui accompagnait Israël dans le désert alors qu'il quittait l'Égypte et se dirigeait vers la terre promise. Le tabernacle était, encore une fois, emblématique de la demeure de Dieu en sa présence avec son peuple. Et puis enfin, lorsqu'ils construisent un temple, une demeure plus permanente, un lieu de demeure de Dieu, encore une fois, le temple est emblématique de la présence de Dieu auprès de son peuple. Il ne fait aucun doute que le temple était important pour d'autres raisons également, mais au fond, le temple était un lieu où Dieu demeurait avec son peuple. Maintenant, comme nous l'avons déjà dit, la signification de ceci est que le jardin d'Éden dans la Genèse et, dans un sens, toute la création était censée être un espace sacré, le lieu où Dieu habitait avec son peuple. Dans un sens, le jardin d'Éden devait être compris comme le temple de Dieu ou le tabernacle de Dieu où reposait la présence de Dieu, et s'est arrêté à la fin de la construction du temple. Et en passant, lisez parfois le récit de la construction du temple dans Exode 25 et suivant, ainsi que le récit de la création dans Genèse 1 et 2, et remarquez les similitudes entre les deux. Ainsi, dans Genèse 1 et 2, encore une fois, Dieu construit une demeure, un temple, un sanctuaire où sa présence viendra se reposer avec son peuple. Or, le jardin était un espace sacré, de sorte que, encore une fois, le tabernacle et le temple, je suppose, étaient censés être des répliques, dans un sens, du jardin d'Éden. Et nous avons déjà examiné certaines similitudes entre le jardin d'Éden tel que décrit dans Genèse 1 et 2 et le temple, par exemple. Nous voyons dans le temple qu'à la fois le tabernacle et le temple, en fait, l'or est l'un des métaux dominants dont sont faits le tabernacle et le temple. Quand on remonte à Genèse 2, dans la description du jardin d'Éden, il est intriguant que l'or soit l'une des pierres précieuses trouvées dans la région d'Éden. Nous avons également parlé du concept de Dieu se reposant, de la demeure de Dieu ou de sa présence se reposant dans le temple, de l'idée des luminaires et des lumières qui reflètent le chandelier dans le temple, et du chandelier, peut-être, reflétant également l'arbre de vie. Nous avons donc déjà vu un certain nombre de motifs du temple, motifs du récit de la création dans Genèse 1 et 2 qui sont repris plus tard dans les descriptions du temple. Mais encore une fois, le temple et le tabernacle étaient censés être des répliques du jardin d'Éden ou une sorte de jardin d'Éden en miniature, le jardin d'Éden est nu. Encore une fois, le temple, dans un sens, était censé. Le temple et le tabernacle étaient censés être une image de ce à quoi devait ressembler toute la création. Avec la présence de Dieu imprégnant le tout, la gloire de Dieu, son règne et sa royauté remplissant toute la création. Encore une fois, c'est-à-dire, Genèse chapitre 1 et 2. Ainsi, le temple et le tabernacle étaient des images de ce à quoi devait finalement ressembler toute la création. Comme nous l'avons dit, l'or est l'un des plus importants. Il suffit de lire la description du tabernacle dans Exode 25 et suivant. Lisez 1 Roi 5 à 7, le récit de la construction du temple. Et remarquez le rôle important que joue l'or. Encore une fois, l'or est l'un des métaux précieux trouvés dans Genèse 2 dans la description du paradis et du jardin d'Éden. Mais remarquez, et nous avons déjà dit qu'une grande partie de la littérature juive, par exemple la littérature apocalyptique, une autre littérature dépeint Adam comme un prêtre qui fonctionnait comme prêtre dans le jardin d'Éden. Il représentait le jardin d'Éden comme le lieu de la présence de Dieu où la lumière de la gloire de Dieu brillait dans tout le jardin. Mais il existe un certain nombre d'autres indications intéressantes. Par exemple, regardez. Il s'agit de 1 Roi 6, qui fait partie de la description de la construction du temple. 1 Roi 6 et 29 versets entre 29 et 30. Il est dit, il a sculpté les murs de la maison tout autour avec des gravures de chérubins, a attrapé des palmiers et a ouvert des fleurs dans les pièces intérieures et extérieures. Le sol de la maison qu'il ouvrit, recouvert d'or dans les pièces intérieures et extérieures. Nous avons déjà évoqué l'or. Mais pourquoi le temple est-il gravé de sculptures de chérubins, ces êtres angéliques, de palmiers et de fleurs épanouies? Probablement parce qu'il reflète la fécondité de la création dans Genèse 1 et 2 et dans le jardin d'Éden qui avait les arbres, l'arbre de vie, les arbres qui poussaient, les plantes qui poussaient et qui donnaient du fruit. Il est donc fort probable que les sculptures du temple soient censées refléter cela. Et encore une fois, les sculptures des chérubins reflètent peut-être les deux chérubins qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden, le jardin du temple, l'espace sacré, après qu'Adam et Ève furent exilés à cause de leur désobéissance. Ainsi les gravures de plantes et de palmiers rappellent la fécondité de la création originelle et le paradis originel. Il est également intéressant de noter que lorsque l'Arche d'Alliance est construite, au chapitre 6, vous lisez également cela, il y a deux chérubins qui la gardent, ce genre de surveillance sur elle. Ils sont placés dans le Saint des Saints. Encore une fois, les deux chérubins qui gardent le Saint des Saints où la présence de Dieu est particulièrement manifeste reflètent probablement les deux chérubins, les êtres angéliques qui gardent l'entrée du Jardin d'Éden, le lieu de la présence de Dieu dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Le chandelier, comme je l'ai dit, le chandelier reflète peut-être l'arbre de vie dans le Jardin d'Éden. Dans Genèse, je suis désolé, dans Ézéchiel chapitre 47, nous parlerons de ce texte plus tard. Lors de la prochaine conférence, nous parlerons davantage de l'attente prophétique et de la façon dont elle s'inscrit dans la direction que prend l'histoire et le scénario. Mais dans Ézéchiel 47, nous trouvons une description de En fait, Ézéchiel 40 à 48 est la vision d'Ézéchiel d'un temple restauré et jouera un rôle clé dans notre compréhension du scénario. Mais au chapitre 47, Ézéchiel décrit le temple comme un endroit d'où sort une rivière, ce qui est encore une fois très similaire. Et en fait, la rivière est bordée de chaque côté d'arbres qui donnent des fruits. Tout cela rappelle la description du Jardin d'Éden dans Genèse chapitre 2, où en sort une rivière, l'arbre de vie, la fécondité, etc. Donc, ce que cela suggère, c'est clairement que le temple et le tabernacle étaient censés être des répliques du Jardin d'Éden. Encore une fois, une sorte d'image, un instantané, un portrait en miniature de ce que Dieu a prévu pour l'ensemble de sa création. Un lieu de bénédiction et de fécondité où Dieu habiterait au milieu de son peuple et où la gloire de Dieu et son règne s'étendraient dans toute la création en accomplissement des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Cela commence maintenant à s'accomplir et s'est maintenant en quelque sorte cristallisé ou démontré dans l'établissement à la fois du tabernacle et du temple comme lieu de bénédiction de Dieu, encore une fois, comme j'aime l'appeler, le jardin du temple. Ainsi, le thème du jardin du temple est clairement indiqué dans l'histoire continue des relations de Dieu avec Israël et encore une fois, Israël étant le moyen de Dieu pour restaurer son intention originale pour la création. Un autre thème dominant de l'histoire d'Israël est celui de la royauté. Et cela se reflète de deux manières. Premièrement, déjà dans Exode chapitre 19 et verset 6, je pense que c'est le texte que je veux, Exode chapitre 19 et verset 6, Israël devait être un royaume de prêtres. Notez donc à la fois les images sacerdotales ou du temple, mais aussi les images de la royauté. Encore une fois, l'intention d'Israël d'être un royaume de prêtres reflète clairement, encore une fois, l'intention de Dieu pour l'humanité de régner sur la création et de répandre la gloire et la présence de Dieu dans ce jardin du temple, chapitre 1 et 2 de la Genèse. Or, Adam et Ève ont échoué dans leur tentative. Cela et ont été exilés. Or, Israël, en tant que royaume des prêtres, est le moyen dont Dieu dispose pour accomplir cette intention. Plus spécifiquement, le thème de la royauté ou de la domination ou d'Adam et Ève fonctionnant comme vice-régents de Dieu est exprimé plus clairement et se reflète dans le roi d'Israël. Et plus particulièrement encore dans l'alliance davidique. Donc, si vous regardez, par exemple, 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 7, qui est l'établissement de l'alliance de Dieu avec David, et la plupart des promesses faites, la plupart des attentes de l'accomplissement d'un roi davidique et des promesses messianiques tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament remontent à 2 Samuel chapitre 7. Mais dans 2 Samuel chapitre 7, et particulièrement dans les versets autour du verset 14, permettez-moi de revenir au verset 10. En fait, permettez-moi de revenir au verset 8. Et c'est la promesse de Dieu à David. Maintenant donc, ainsi tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai retiré du pâturage, loin de suivre les brebis, pour être prince de mon peuple Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu allais, et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et je te ferai un grand nom. Notez le lien avec l'alliance abrahamique. Pour faire d'Israël un grand nom, pour faire d'Abraham un grand nom. Comme le nom des grands de la terre. Et je désignerai un lieu pour mon peuple Israël, et je le planterai afin qu'il puisse vivre dans son propre lieu, et ne soit plus dérangé, et que les malfaiteurs ne l'affligeant plus comme autrefois. À partir de ce moment-là, j'ai établi des juges sur mon peuple Israël, et je te donnerai du repos contre tous tes ennemis. Remarquez tous ces thèmes qui remontent à la fois à l'alliance abrahamique, mais aussi à la création. Le thème de lui donner du repos dans la terre, rappelle le repos de Dieu, le repos de la présence de Dieu dans la terre. Encore une fois, le thème d'Israël étant implanté dans le pays, le thème de la bénédiction, le thème du nom de David étant rendu grand. Tous ces éléments relient la promesse davidique et cette alliance que Dieu conclut avec David, non seulement à la promesse faite à Abraham, mais aussi à la création elle-même. Encore une fois, vous voyez cette histoire continue. Il ne s'agit pas simplement d'engagements distincts ou de plans distincts adoptés pour tenter de faire les choses correctement. Ils sont tous intégralement liés, en fin de compte, au récit de la création, en tant que moyen par lequel Dieu réalisera son intention de création qui a été établie pour la première fois avec Adam et Ève dans Genèse 1 et 2. Remarquez plus loin. Verset 12, une autre connexion avec Abraham et la création. Au verset 12, il est dit à David que lorsque tes jours seront accomplis ou terminés et que tu coucheras avec tes ancêtres, je susciterai après toi ta postérité, qui sortira de ton corps et j'établirai son royaume. Ainsi, David a également la promesse que sa descendance, tout comme Abraham a reçu la promesse d'une descendance, David aussi a la promesse d'une descendance, que sa descendance sera ressuscitée. Donc ce que tout cela suggère, c'est que la promesse de Dieu à Abraham s'accomplira finalement à travers le roi davidique, par Dieu choisissant David. Mais aussi la création dans les chapitres 1 et 2 de Genèse s'accomplit plus loin dans l'alliance davidique, ou également dans l'alliance davidique. Si je peux aller plus loin, versets entre 13 et 14, toujours 2 Samuel chapitre 7, « Il bâtira une maison à mon nom, faisant référence à la postérité de David, et j'établirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Remarquez le langage de l'Alliance, « Je serai son père, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je serai le père, tu seras mon fils. » Donc, ce qui se passe ici, c'est que Dieu promet à David un trône perpétuel, qu'il y aura toujours quelqu'un de la postérité de David, un des descendants de David, qui s'assiera sur son trône et régnera sur Israël en accomplissement de l'alliance conclue avec Abraham. Et à cela est liée l'idée qu'Israël sera dans le pays, que Dieu les restaurera dans le pays, que Dieu régnera, que le roi David régnera sur eux et leur donnera du repos. Maintenant, ce que cela me suggère aussi, c'est que le roi davidique, et c'est très important, le roi davidique est le moyen par lequel Dieu accomplit son intention de Genèse 1 et 2 de l'humanité de régner sur toute la création. Encore une fois, rappelez-vous dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu afin de régner sur toute la création. En tant que représentants de Dieu, ils sont les vice-régents de Dieu. Maintenant, Dieu restaurera finalement cela en choisissant non seulement la nation d'Israël, mais plus spécifiquement, un roi pour régner sur Israël en tant que vice-régent de Dieu. C'est ainsi que l'intention de Dieu de régner sur toute la création par l'intermédiaire de ses vice-régents, Genèse 1 et 2, va finalement être établie. Par exemple, vous pouvez, dans Genèse, « Je suis désolé », psaume chapitre 2, un certain nombre de psaumes sont ce qu'on appelle souvent des psaumes royaux. Ils font référence au roi davidique qui règne sur son peuple. Et dans le psaume chapitre 2 et verset 8, remarquez que la portée ultime du règne du roi dans le psaume chapitre 2, « Pourquoi les nations ont-elles conspiré et les peuples ont-ils comploté en vain ?» Les rois de la terre se sont dressés, et les dirigeants se sont concertés contre l'Éternel et son oint, en disant, « Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs liens. Celui qui est assis dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère et les épouvantera dans sa fureur, disant, « J'ai établi mon roi, c'est-à-dire le roi David ou la postérité de David, j'ai établi mon roi sur Sion, ma colline sainte. » Je raconterai le décret du Seigneur. Il m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Il y a la formule de l'Alliance. Demandez-moi et je ferai des nations votre héritage et des extrémités de la terre votre possession. Ainsi, en fin de compte, le roi Davidique devait régner sur la création entière en tant que vice-régent de Dieu, en accomplissement de la vice-régence qui devait se manifester en Adam et Ève en tant que porteur de l'image de Dieu qui devait régner sur toute la création. Encore une fois, je suppose que le roi Davidique est le vice-régent de Dieu qui règne en fin de compte pour établir son règne sur toute la création, en accomplissement du mandat original confié à Adam et Ève en tant que porteurs de l'image de Dieu pour régner sur toute la création. Ainsi, les gens vivant dans le pays avec Dieu habitant au milieu d'eux dans le temple et Dieu régnant sur eux avec le roi Davidique régnant au nom du peuple sont tous considérés en fin de compte comme l'accomplissement ultime et la réalisation de l'intention de Dieu, non seulement pour établir l'alliance abrahamique mais remontant encore plus loin à son établissement, sa restauration des conditions de création et donc avec ses conditions existantes maintenant, Israël doit être une lumière pour toutes les nations et Israël doit déclarer la gloire et la louange de Dieu parmi les nations et pour étendre la souveraineté de Dieu sur toute la terre. Encore une fois, en accomplissement de Genèse 1 et 2. Cependant, bien que ces conditions existent, nous devons revenir en arrière et nous rappeler les stipulations de l'alliance que Dieu conclut avec Israël à travers l'alliance mosaïque jusqu'au Deutéronome. Que ces conditions continueraient d'exister aussi longtemps qu'Israël obéirait et respecterait les stipulations de l'Alliance de la même manière qu'Adam et Ève resteraient dans la terre de bénédiction et rempliraient le mandat de Dieu de régner sur toute la création et de répandre sa gloire dans toute la création aussi longtemps que alors qu'il obéissait. La même chose est vraie avec Israël. Tant qu'ils obéiront, ils resteront dans le pays, le lieu de la bénédiction de Dieu, et connaîtront sa fécondité sous le règne du roi Davidique en accomplissant le mandat de répandre le règne et la gloire de Dieu sur toute la création. Le roi Davidique est le vice-régent de Dieu, Dieu résidant au milieu du temple. Cette condition existerait aussi longtemps qu'Israël maintiendrait la relation d'alliance. Cependant, encore une fois, si Israël échoue, alors ils seront exilés, tout comme Adam et Ève. Ils seront exilés du pays, le lieu de bénédiction, et ils refuseront alors d'accomplir, ils échoueront alors à accomplir le mandat qui remonte finalement à la création. Et en fait, comme le raconte l'histoire, c'est exactement ce que fait Israël. Israël ne parvient pas à respecter l'alliance. Ils pêchent, ils s'en prennent à d'autres idoles, et donc, si vous vous en souvenez, parce qu'ils désobéissent, donc, si vous vous souvenez de votre histoire de l'Ancien Testament, Dieu les a emmenés en exil. Autrement dit, ils sont exilés du pays, le lieu de la bénédiction de Dieu, le lieu de la présence de Dieu avec son peuple, et ils sont transférés vers un pays étranger, un lieu d'oppression et un lieu d'exil. Par exemple, revenons au premier roi. Fait intéressant, à la fin de la description de la construction du temple dans 1 roi 5 à 7, plus tard vers la fin, au chapitre 9 et versets 6 à 7, en fait, si je peux revenir en arrière un peu de plus, je commencerai par le chapitre 9, verset 1, et je lirai les versets 6 et 7. 1 roi chapitre 9, lorsque Salomon eut fini de construire la maison, le temple de l'Éternel et la maison du roi, et tout que Salomon désirait bâtir, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Le Seigneur lui dit, « J'ai entendu ta prière et ta supplication que tu as formulée devant moi. J'ai consacré cette maison que tu as bâtie. J'y ai mis mon nom pour toujours. Mes yeux et mon cœur seront là pour toujours. Quant à toi, si tu marches devant moi comme David, ton père, a marché, avec un cœur intègre et droit, en faisant selon tout ce que je t'ai commandé et en observant tous mes statuts et ordonnances, c'est-à-dire de la loi mosaïque, alors j'établirai ton trône royal sur Israël pour toujours, comme je l'ai promis à ton père David, en disant qu'il ne te manquerait pas de successeur sur le trône d'Israël. » Voilà donc la partie bénédiction de l'alliance que Dieu établit pour son peuple. Cependant, versets 6 et 7, « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos enfants, et que vous ne gardez pas mes commandements et mes statuts que je vous ai mis devant vous, mais que vous allez servir d'autres dieux et les adorer, maintenant écoute, alors je retrancherai Israël du pays que je leur ai donné. Et la maison que j'ai consacrée, ce temple que j'ai consacré à mon nom, je le ferai disparaître de ma vue, et Israël deviendra un proverbe et une chanson injurieuse parmi tout le peuple. Cette maison deviendra un tas de ruines. Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé à Israël. Parce qu'ils n'ont pas obéi et respecté la relation d'alliance avec Dieu, ils sont à nouveau exilés du pays, le temple est détruit, la présence de Dieu en est retirée, Israël est retiré du pays de bénédiction, du lieu de la demeure et de la présence de Dieu. Et se retrouve maintenant en exil hors du pays, dans un lieu hors de la bénédiction et de la présence de Dieu. Maintenant, ce que je veux que vous remarquiez, ce sont les parallèles évidents entre Adam, Ève et Israël. L'histoire d'Adam et Ève dans les chapitres 1 et 3 de Genèse, et la situation actuelle avec Israël dans le récit que nous avons parcouru si rapidement. Tout d'abord, encore une fois, dans Genèse 1 et 2, nous trouvons Adam et Ève, le premier peuple de Dieu, dans le pays, un lieu de bénédiction de Dieu, un lieu où Dieu demeure avec eux, un lieu où ils sont, à nouveau, dans une relation d'alliance avec Dieu, mais parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu et à la fin de l'alliance, ils sont exilés du pays, le lieu de bénédiction, ils sont exilés du jardin, le lieu de bénédiction et le lieu de la présence de Dieu. Ainsi, Adam et Ève échouent. Maintenant, Israël, en tant que peuple de Dieu, est également amené dans le pays, le lieu de la bénédiction de Dieu, le lieu où Dieu habite, maintenant dans le jardin miniature, le jardin d'Éden, le temple, mais ils pêchent aussi, ils échouent. Pour maintenir la relation d'alliance, et eux aussi sont exilés du pays. Ainsi, dans un sens, Israël ne s'en sort pas mieux qu'Adam et Ève. Adam et Ève ne parviennent pas à accomplir l'intention originale de Dieu concernant la création et sont exilés du pays. Israël arrive, et ils reçoivent le même mandat, ils doivent être fécondes et se multiplier, ils doivent répandre le règne et la gloire de Dieu dans toute la création, à travers le roi Davidique, Dieu demeure avec eux sous la forme du temple, dans le sur-terre, ils connaissent la bénédiction et la fécondité, mais eux aussi ne parviennent pas à accomplir l'intention de Dieu pour la création, et eux aussi sont exilés. Alors, la question à la fin de l'histoire d'Israël demeure, comment alors Dieu restaurera-t-il son intention originelle pour toute l'humanité et pour toute la création, commencée dans Genèse 1 et 2, mais maintenant ruinée et contrecarrée à cause du péché? Encore une fois, nous venons de voir qu'Israël ne s'en sort pas mieux qu'Adam et Ève, qu'ils n'ont pas non plus réussi à accomplir l'intention de Dieu, qu'ils ont également péché et qu'ils ont également été exilés du lieu de la bénédiction de Dieu. Ainsi, encore une fois pour récapituler l'histoire, Adam et Ève ont été créés comme porteurs de l'image de Dieu, pour représenter Dieu et répandre sa gloire et son règne, en tant que vice-régent de Dieu pour répandre son règne dans toute la création, et Dieu leur a gracieusement donné la terre qu'ils doivent y vivre, Dieu habitera avec eux, ils jouiront de la bénédiction tant qu'ils obéiront. Adam et Ève refusent et sont exilés. Dieu choisit Abraham et élit la nation d'Israël pour remplir son mandat originel pour la création. Lui aussi leur donnera le pays, il les amènera au pays, il établira une relation d'alliance avec eux, eux aussi doivent jouir de la bénédiction du pays par le temple, Dieu habitera au milieu d'eux, finalement par l'intermédiaire du roi Davidique, ils régneront sur toute la création et jouiront de la bénédiction du pays s'ils obéissent et respectent l'alliance que Dieu conclut avec eux. Pourtant, tout comme Adam et Ève, Israël pêche et est exilé du jardin. La question est donc de savoir comment Dieu réalisera-t-il son intention originelle avec l'humanité qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à réaliser, et qui n'a pas non plus pu se matérialiser avec le choix de Dieu de la nation d'Israël. Maintenant, dans un sens, Dieu a deux problèmes, si nous pouvons le dire ainsi. Il a à traiter à la fois le problème plus global d'Adam et Ève, mais aussi le problème plus spécifique d'Israël, c'est-à-dire le problème de toute la création et de toute l'humanité via Adam et Ève et leur péché, mais il doit aussi maintenant s'occuper du nation d'Israël et sa situation difficile, car rappelez-vous que Dieu a conclu une alliance avec Abraham, selon laquelle Abraham et Israël sont le moyen par lequel Dieu résoudra le problème plus vaste. Une façon de voir les choses est que le problème mondial plus vaste créé par Adam et Ève va maintenant être résolu par une situation plus étroite dans laquelle Dieu choisit Israël, mais encore une fois, ils ne s'en sortent pas mieux, donc Dieu a deux problèmes dans un sentiment à corriger. Il doit résoudre le problème du péché d'Israël parce que c'est le moyen par lequel Dieu va résoudre le problème plus vaste d'Adam et Ève et de toute la création. Donc remédier aux deux difficultés et aux deux situations. Il ne peut pas simplement abandonner Israël et dire que cela n'a pas fonctionné, laissez-moi essayer autre chose ou laissez-moi revenir à mon intention initiale. Dieu, Israël est le moyen par lequel Dieu restaurera son intention pour toute la création. Encore une fois, toutes les nations de la terre doivent en fin de compte être bénies par Israël, donc Dieu, Israël aussi, comme Adam et Ève et toute la création et toute l'humanité, tout comme ils doivent être sauvés du péché et de la mort, de même Israël doit aussi et peut-être doit-il d'abord être sauvé du péché et de la mort, afin que le problème plus large de toute l'humanité et de toute la création soit résolu. Ainsi, le reste de l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, continueront l'histoire et continueront à répondre à la question, comment Dieu va-t-il restaurer son intention originale de création à partir des chapitres 1 et 2 de la Genèse? Mais on ne peut répondre à cette question qu'en se demandant également, comment Dieu va-t-il restaurer Israël et le problème qui s'y trouve? Parce que, encore une fois, Israël était le moyen par lequel Dieu résoudrait et restaurerait son intention originelle de création. Ceci donc, juste pour anticiper la prochaine conférence, cela prépare le terrain pour l'attente trouvée dans les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe et Ézéchiel, Jérémie et Zacharie, et d'autres textes prophétiques. Cela définit les attentes trouvées dans les prophètes quant à la manière précise dont Dieu fera cela. Et encore une fois, comment Dieu va-t-il sauver Israël du péché et de la mort, afin qu'à terme, toute l'humanité puisse également être sauvée de sa situation difficile, afin de restaurer l'intention de Dieu pour la création dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Donc, ce que nous allons faire alors que nous commençons à regarder le texte prophétique, qui a commencé à anticiper et à prophétiser concernant l'intention de Dieu de restaurer son peuple de l'exil et de rectifier la situation créée par l'infidélité d'Israël, pour finalement restaurer l'intention de Dieu pour toute la création dans Genèse 1 et 2, alors que nous parcourons le texte prophétique qui anticipe cela, est encore une fois, nous voulons être conscients des thèmes majeurs que nous avons examiné dans les chapitres 1 et 3 de Genèse, dans le contexte, puis celui que nous avons vu émerger dans l'histoire d'Israël. Le thème du peuple de Dieu, que Dieu crée un peuple. Le thème de l'alliance est que Dieu entre dans une relation d'alliance avec eux. L'alliance est le moyen dominant par lequel Dieu entre en relation avec son peuple, par lequel Dieu le bénira. Le thème de la terre et de la création est que la terre et la création sont considérées comme un cadeau gracieux que Dieu fait à son peuple. C'est un lieu de bénédiction. C'est un endroit où Dieu bénit son peuple. Thème du temple, la terre est aussi le lieu où Dieu habite. Le thème du temple et du jardin. L'attente d'une restauration de la présence de Dieu. L'attente de la restauration du temple. Que Dieu habitera à nouveau un jour avec son peuple dans le pays. Le thème de la royauté et de la vice-régence. Comment Dieu va-t-il restaurer son intention de faire régner l'humanité sur la création? Désormais, à travers Israël, cela se concentrera particulièrement sur le roi Davidique. Dieu fait la promesse par l'intermédiaire de David que son intention de régner sur la création se réalisera finalement par l'intermédiaire d'un roi davidique qui gouvernera au nom du peuple. Donc, le thème de la royauté. Tous ces thèmes émergent donc, à mon avis, dans le texte prophétique. Ainsi, lors de la prochaine conférence, nous nous concentrerons spécifiquement sur certains textes prophétiques. Encore une fois, en donnant un aperçu très rapide, mais nous nous arrêterons et examinerons certains des passages majeurs et vous montrerons comment ces thèmes, dans le cadre de ce scénario unique qui remonte à Genèse 1, 2 et 3, nous nous verrons comment ces thèmes commencent à se frayer un chemin à travers la littérature prophétique. Et puis finalement, juste pour aller un peu plus loin, nous verrons comment finalement les attentes telles qu'articulées dans le texte prophétique se réaliseront finalement dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus-Christ, où tous ces thèmes seront alors commencent à émerger dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ et éventuellement s'accomplir dans ce nouveau peuple que Dieu va maintenant créer. Encore une fois, alors que nous nous dirigeons vers la fin de l'histoire qui commence dans les chapitres 1 et 3 de la Genèse. Il s'agissait de la conférence numéro 2 de Dave Matthewson sur le scénario de la Bible, les récits du Pentateuque.